France Inter.
La vie Tibo.
Paré à l'abordage, Souquet les Artémuses.
Du calme, du calme. En plus, ça veut rien dire, Souquet les Artémuses.
Ah, c'est ça, je me disais aussi.
À l'abordage.
Pirate
Tipiak. Bonjour Jean Soula.
Bonjour.
Jean Soula, vous êtes archéologue, spécialiste des objets métalliques. On pense tout de suite aux pièces d'or sonnantes et trébuchantes, bien sûr, des bons vieux trésors de pirates, car vous êtes l'une des figures en France de l'archéologie de la piraterie. Dans le cadre d'un programme de recherche, vous réalisez des fouilles d'épaves de navires au large de l'île Maurice ou de l'île Saint-Marie à Madagascar pour reconstituer la vie des pirates qui les habitent, ou qui les habitaient plutôt. Jean Soula, pour commencer, comment est-ce que c'est né votre amour des pirates et est-ce que vous vous êtes tout de suite dit que ça existait, l'archéologie de la piraterie? Parce que moi, je l'ai découvert aujourd'hui.
En fait, c'est un désir d'aventure, d'exotisme, travailler un petit peu sur ces forbans des mers qui font rêver et qui m'ont fait rêver étant jeune, hein, lecture de romans d'aventure comme L'île au trésor, lecture de bandes dessinées comme Tintin et le trésor de Rackham le Rouge, bien évidemment. Film, documentaire, etc. Un peu comme tout le monde. Et en fait, non, c'est assez récemment, hein, il y a 5-6 ans que j'ai vraiment voulu, avec plusieurs collègues, développer cette discipline thématique de recherche en archéologie qui ne s'était développée finalement qu'outre-Atlantique, hein, dans les universités américaines, mais en France et en Europe, on avait finalement que peu de choses qui se faisaient. Donc c'est un peu cette carence qui m'a donné l'envie, et puis il y a un voyage à l'île Maurice aussi, pour rien vous cacher, voyage familial, où j'ai découvert aussi certaines collections issues de fouilles anciennes, hein, des années 80, le Speaker, une épave pirate qui a coulé au large de l'île Maurice.
En 1702, je crois, j'ai la date. Évidemment, en tête, comme tout le monde, comme tout à chacun. Vous êtes logiquement immergé sous l'eau quand vous faites de l'archéologie pirate. Quelles difficultés ça pose que n'aurait pas un archéologue à l'air libre?
Sous l'eau, le temps est compté, hein, le temps de l'oxygène dans la bouteille finalement. Donc, on est obligé de tout préparer en amont, de plonger et puis de faire le débrief après, mais on ne peut pas trop communiquer sous l'eau. Donc, c'est ça la grande difficulté de l'archéologue plongeur d'épaves.
Alors, vous expliquez qu'en fait, il n'existe pas plus d'une dizaine d'épaves, notamment dans les Caraïbes et l'océan Indien, qu'on peut vraiment authentifier comme des anciens navires pirates. Comment on sait que c'est des navires pirates déjà? Est-ce qu'on y trouve des jambes de bois,
des cachets ou autres? Non, on sort de l'imaginaire, la pop culture. On travaille d'abord sur les archives qui renseignent en fait les naufrages autour des côtes. Donc ça, c'est quelque chose de relativement classique. Et puis ces archives hollandaises, anglaises, françaises nous renseignent en fait sur le type de navire, le capitaine, l'équipage. Et là, on se rend compte tout de suite qu'on va avoir affaire à des forbans, des corsaires ou autres, ce qui va permettre de rediriger les recherches. Et puis c'est aussi lié à l'intérêt des chercheurs qui vont travailler sur ces épaves-là. Généralement, quand on s'intéresse à Barbe Noire, Edward Teach, hein, le grand, qui a sabordé lui-même son navire au large de la Caroline du Nord, dans la baie de Beaufort, il y a des archives qui sont consignées et les chercheurs vont s'intéresser à cette épave en particulier, vont essayer de la retrouver et tombent dessus, mais pour l'identifier, c'est le cumul d'indices et d'objets différents qui vont permettre de déterminer le nom de l'épave, finalement presque sur une période de 10-15 ans. Donc c'est extrêmement long, il faut récolter tout ça. Mais parfois dans ces zones de d'épave, on n'a qu'un seul bateau qui est renseigné. Et donc là, tout de suite, c'est plus facile,
c'est lui,
si vous voulez, de déterminer. Mmh. C'est exactement la même chose que pour l'épave du Speaker à l'île Maurice. Il n'y a qu'un seul bateau qui est renseigné dans les archives hollandaises de l'époque, dans la zone du naufrage. Il n'empêche que pour pouvoir le prouver, il y a des indices et des datations à avoir, notamment sur les pièces de monnaie ou les objets liés à l'armement.
Alors, il y avait évidemment énormément d'hommes, hein, chez les pirates, mais il y avait quand même quelques femmes, notamment Jeanne de Belleville, baronne poitevine du XIVe siècle, à laquelle ses exploits vaudront le surnom de tigresse bretonne. Bon, là, je me suis un petit peu identifiée, on va pas se mentir. Il y avait quand même plein de femmes pirates, non?
Alors, plein, non, en fait. Là, on est
tu prends tes désirs pour des réalités.
Si, il y en avait plein, je suis sûre que si.
Je suis désolé, c'est un peu comme les femmes vikings qui partent à l'assaut des expéditions, etc. Non, en fait, malheureusement, l'histoire fait que la femme, entre guillemets, reste un peu à sa place au foyer.
C'est-à-dire.
Eh bien oui, mais à l'époque, c'est comme ça. L'histoire est patriarcale et on aime aujourd'hui à le penser différemment et on souhaite avoir des œuvres de fiction qui nous montrent l'inverse finalement. Mais à l'époque, il existait quelques femmes pirates. C'est vrai, on en compte 6 dans toute l'histoire de la piraterie, c'est-à-dire de presque de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle en mer de Chine avec la fameuse Xing Shi, qui était aussi une impératrice pirate qui avait à ses ordres près de 10 000 marins. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, il y a eu des femmes de pouvoir et d'ailleurs qui ont marqué l'histoire. C'est pour ça qu'on en parle. Mais finalement, dans la vie de tous les jours, il y avait quand même peu de femmes à bord des navires, qu'elles soient pirates ou non, parce que pour les marins de l'époque, ça portait malheur. Quand même, on s'intéresse à ces quelques cas, puisqu'elles sortent un peu du commun. Elles se costumaient, elles se cachaient finalement sous des vêtements d'hommes. Ça, c'est une réalité, on le sait. Mais de là à avoir des pirates, une armée de pirates femmes, on en est un petit peu loin.
Pirates des Caraïbes et son île de la Tortue, où Jack Sparrow va recruter des membres de son équipage, One Piece, dont les personnages sont directement inspirés de grandes figures de la piraterie, ou L'île au trésor du bon vieux Robert Louis Stevenson. Aujourd'hui, l'imaginaire de la piraterie est partout. Selon vous, il est un petit peu caricaturel. C'était quand et ça ressemblait à quoi, l'âge d'or de la piraterie? En quelques secondes, évidemment.
Alors, en quelques secondes, toujours. On est entre 1650 et 1730, donc fin du 17e, début du 18e siècle. Et effectivement, ces grands repères de pirates comme l'île de la Tortue ou autre, c'est un peu développé de manière assez imaginaire. En fait, ces repères à l'époque, notamment à la fin du 17e, sont plutôt des zones de relâche où on vient nettoyer le navire, faire du ravitaillement, éventuellement revendre la marchandise, notamment les esclaves aussi. Et on n'est pas dans ces espèces de zones de où il y a des tavernes partout où on va boire et profiter des jeux et des zones de divertissement. Voilà, c'est aussi un point de stratégique qui permet de se ravitailler, de réparer le navire parce qu'il a parfois besoin de l'être, etc. Par contre, on a quelques villes qui sont connues, notamment la ville de Port-Royal à la Jamaïque, avant 1692, qui est notée comme un repère de flibustiers où les pirates viennent carrément avec leur butin pour renflouer finalement la colonie. Et ça arrange tout le monde, autant le gouverneur que les marchands, les commerçants sur place. Donc, parfois, c'est une activité hors la loi, certes, et de contrebande, mais les autorités peuvent être...
Ouais.
Voilà, exactement.
Vous, Fatima Ouassak, vous aimez beaucoup One Piece, où vous êtes inspirée dans vos essais d'une forme de résistance des pirates face à un capitalisme triomphant du début du 19e siècle. Une existence marginale, dont bien sûr il ne faudrait pas tout prendre, mais qui pourrait inspirer une certaine résistance politique. Il y a une dimension politique de la piraterie pour vous ?
Ah oui, d'ailleurs, moi j'ai notamment beaucoup lu Marcus Rediker qui fait une analyse anticapitaliste et avec cette dimension de lutte contre l'esclavage, notamment aussi de lutte féministe, parce que alors lui, Marcus Rediker dit qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de femmes pirates, mais il y en a un peu plus dans cet espace social-là qu'ailleurs en fait, et que c'est quand même effectivement un espace politique d'émancipation, de résistance, etc. C'est aussi un endroit où il y a plus de personnes noires qui ont du pouvoir qu'ailleurs. Et donc voilà, il y a cette dimension très très politique qui existe déjà, à laquelle j'ai eu accès, sur laquelle je m'appuie. Il y a la question de l'émancipation, de la libération, la question de la subsistance aussi. Le bateau pirate, c'est aussi un endroit où on expérimente l'autonomie. Alors on retrouve ça dans One Piece, pardon d'y retourner, mais, parce que voilà, dans l'équipage, il y a un médecin, il y a une navigatrice, il y a un musicien, voilà, on se suffit à soi-même, à nous-mêmes, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant.
Tout l'imaginaire que vous trouvez
depuis
inspirant,
les quartiers. Ouais, de penser les quartiers populaires comme un endroit d'oppression, ce que c'est un endroit emmuré, mais en même temps où il y a une soif de liberté et où on peut en fait se débrouiller, être solidaire pour essayer de s'en sortir.
Vous êtes un peu la 7e femme pirate finalement.
Oui, voilà, c'est moi.
Jean Soulas, ce serait quoi un pirate des temps modernes?
On en a encore aujourd'hui,
oui, hein,
parce
au large
que
de la
l'actualité en parle énormément avec les menaces houthis justement qui attaquent ces gros paquebots, ces gros porte-conteneurs, alors à coup parfois d'hélicoptères, de drones et autres. On voit d'ailleurs dans pas mal de vidéos qui circulent que les paquebots essayent de se défendre par rapport à ça. Ils mettent des barbelés partout. Après, pour revenir juste en deux secondes sur Marcus Rediker, il a quand même une vision très politique et très axée aussi par rapport à un discours qu'il faut parfois il faut le dire, nuancé, notamment par rapport à l'esclavage. Hein, les pirates pouvaient libérer des esclaves quand ça les arrangeait, mais quand même, globalement, ils les vendaient parce que c'était une marchandise comme une autre qui était extrêmement lucrative. Nous, on le voit à Sainte-Marie, Madagascar, où je retourne dans 3 semaines là pour continuer nos fouilles. On a des archives qui montrent bien qu'il y a des pirates et il y a aussi des esclaves et que tout ça est bien séparé et que à la fois les Betsimisaraka, qui sont la population locale indigène, et les pirates bénéficient en fait de l'apport de ces esclaves qui va renflouer en fait toutes les sociétés à différents niveaux, quoi.
Merci beaucoup en tout cas Jean Soula, on aurait encore 1000 et 1 questions à vous poser tant votre livre Pirates publié chez Alizio l'année dernière est riche et passionnant. On ne peut que le conseiller à toutes celles et à ceux qui souhaitent poursuivre cet échange. On peut aussi suivre 2 de vos missions archéologiques dans le documentaire Arte, La véritable histoire des pirates. Merci.